Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La brusque coupure d'électricité en Espagne survenue le 28 avril 2025 a été attribuée à une perte soudaine de 15 gigawatts de production, notamment en raison d'une surproduction d'énergie renouvelable mal intégrée au réseau. Ce phénomène soulève la question de l'équilibre entre la transition énergétique vers les énergies renouvelables et la nécessité de maintenir une stabilité réseau suffisante. Pour revenir d'ailleurs sur ce phénomène rare, mais non pas sans conséquences, nous retrouvons notre collaborateur et expert maison dans votre émission Durabilité, M. Amin Benouna, expert en énergie. Bonjour, professeur.
Bonjour et merci de l'invitation.
Alors, d'abord, quels sont les liens entre la transition énergétique et la stabilité des réseaux électriques ?
Il n'est pas établi encore que le blackout était lié aux énergies renouvelables. Ce que je peux donner et qui est factuel, c'est que après le blackout, une partie de la production renouvelable s'est maintenue. Et ce qui s'est vraiment écroulé, c'est le nucléaire. Le nucléaire est passé à zéro, complètement. Je n'accuse pas le nucléaire pour non plus, hein.
C'est pas tout à fait ça.
Parce que de toute façon, les images que je donne sont celles de tous les pays. Or, ce n'est pas tout le pays exactement qui a été en blackout. C'est une très grande partie de la péninsule ibérique, dont tout le Portugal, mais il y a une partie qui est restée en fonction, donc il ne faut pas extrapoler non plus. Alors, mais on ne peut pas accuser les renouvelables pour diverses raisons. Donc pour l'instant, voilà, ce schéma-là, cette cause-là n'est pas établie.
Tout à fait.
Il y a d'autres pistes, mais pas celle-là. Alors, la stabilité des réseaux, il est certain que quand on met des renouvelables dans le réseau électrique, on doit mettre face aux renouvelables, parce que toute l'électricité renouvelable, notamment l'éolien et le solaire, sont intermittentes, c'est-à-dire que elles dépendent un petit peu de la ressource. Quand il y a plus de soleil, il y a plus d'électricité, et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité.
Tout à fait.
Il y a plus de vent, c'est la même chose pour le vent, et on appelle ça l'intermittence. Alors on va utiliser le mot intermittence. Donc il faut mettre face à leur intermittence ce qu'il faut pour pallier à leur intermittence. Alors ce qu'il faut, c'est deux outils. D'abord le stockage, c'est-à-dire pouvoir stocker de l'énergie pour pouvoir pallier à des déficits dus à l'intermittence, et ça permet aussi de stocker les excédents. Donc le stockage est, je dirais, le maître moyen pour faire cela. Il y a un autre moyen qui est celui qu'a choisi le Maroc pour les prochaines années, c'est de mettre face aux renouvelables des moyens d'actionner des centrales rapidement, des centrales conventionnelles rapidement, pour suivre tout déficit éventuel de leur production. Vous savez que pour produire l'électricité, il y a les turbines à vapeur qui sont, elles, très lentes à démarrer, très lentes à arrêter. C'est donc pas le cas. Et il y a les turbines à gaz qui sont plutôt rapides à démarrer et rapides à arrêter. Et il y a aussi les génératrices électriques au diesel qui permettent aussi de répondre en quelques secondes à tout déficit. Nous avons aussi développé le stockage, puisque nous avons augmenté la capacité en stockage dans STEP, notamment à Abdelmoumen, qui, quoique en retard de 10 ans, elle est là, et mieux vaut tard que jamais. Donc nous avons deux centrales de stockage d'énergie à Forer et Abdelmoumen. Alors voilà, ça c'est pour les moyens mis en œuvre par le Maroc pour pallier à la présence d'électricité intermittente dans le réseau. Donc il faut mettre face à l'intermittence quelque chose qui est moins intermittent et qui est contrôlable ou bien du stockage. Ça, c'est le métro, maître mot. Maintenant, ceci dit, vous avez parlé de réseaux électriques. Les réseaux électriques ne supportent pas de la même façon l'intermittence des renouvelables parce que il vaut mieux un réseau fortement maillé, c'est-à-dire dans lequel, si vous voulez, en gros, l'électricité a plusieurs moyens d'aller d'un point à un autre, qu'un réseau simplement pyramidal, c'est-à-dire dans lequel vous avez, pour schématiser, un peu comme un arbre, si vous voulez, vous avez un tronc qui donne à des branches, et des branches qui donnent à des petites branches, et qui donnent elles-mêmes à des feuilles. Ça, c'est un réseau qui serait pyramidal. Un réseau maillé est un réseau dans lequel les branches sont interconnectées entre elles et les feuilles sont interconnectées entre elles. Bien, alors, ces réseaux-là supportent mieux l'intermittence, parce que l'électricité, si elle est déficiente d'un côté, elle peut venir d'un autre côté. Ceci étant dit, les réseaux français et espagnols sont relativement bien maillés, beaucoup mieux d'ailleurs que le Maroc. Ça n'a pas empêché le blackout. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, l'intérêt du maillage des réseaux dans la résilience à l'égard de l'intermittence de l'électricité n'est pas forcément la panacée. Il vaut mieux avoir une production dans laquelle on a pallié à l'intermittence que de compter simplement sur le réseau et l'électricité qui va trouver plusieurs moyens de passer.
Oui, et dans cette optique justement, comment d'ailleurs les interconnexions électriques influencent-elles la résilience des réseaux ?
Ah, alors moi j'aime bien dire quelque chose. En fait, les interconnexions sont comme un vaccin contre les blackouts. C'est-à-dire que, en fait, plutôt que de se dire pourquoi les interconnexions ont créé un emballement et déconnectent les autres, il faut se dire que les interconnexions, en réalité, tous les jours et tous les mois et toutes les années, permettent d'éviter des petits blackouts ou des grands blackouts. Tout le temps. Et donc, c'est comme un vaccin, si vous voulez, contre les coupures d'électricité, parce que lorsqu'on est interconnecté, on peut évacuer nos excédents vers nos voisins et on peut compenser nos déficits à partir de nos voisins. Donc les interconnexions sont un moyen d'éviter les blackouts et tous les jours, ce sont des moyens d'éviter les blackouts. Et les pays qui sont complètement isolés, ils connaissent des coupures en permanence. Eux, ce n'est pas des blackouts, c'est du récurrent pour eux. C'est toutes les semaines, c'est parfois tous les jours. Donc nous, on est, Dieu merci, interconnectés, ce qui permet à nous d'éviter des blackouts et à nos voisins d'éviter des blackouts, parce que tous les mois, nous fournissons de l'électricité à l'Espagne. Et si nous le fournissons, c'est qu'elle en a besoin. Et si nous le prenons, c'est que nous en avons besoin aussi. Alors donc, les interconnexions sont des vaccins contre les blackouts. Et si vous voulez, et les blackouts sont quelque part un peu comme les effets secondaires, c'est-à-dire que quand vous êtes interconnecté, vous dépendez de vos voisins, et s'il se passe effectivement une catastrophe chez votre voisin et que vous n'avez pas prévenu à temps la propagation de la maladie, vous tombez en blackout, ce qui est arrivé par exemple au sud de la France et qui ne nous est pas arrivé à nous au Maroc.
Et justement, par rapport aux voisins, concernant déjà le cas du Maroc, quel rôle le Royaume joue-t-il d'ailleurs dans la stabilité énergétique régionale ?
Dans la stabilité énergétique régionale, il faut dire une chose. Depuis malheureusement novembre 2021, l'interconnexion avec l'Algérie est coupée, mais nous étions un pays qui avait une interconnexion vers l'Est, une interconnexion vers le Nord. Bon, il est vrai que l'interconnexion avec l'Algérie, c'est juste un contrat d'assistance mutuelle, ce n'est pas un contrat commercial, alors que notre interconnexion avec l'Espagne n'est pas objet d'un contrat spécifique. L'Office national d'électricité et de l'eau potable est membre du marché européen de l'électricité, donc à ce titre, nous sommes un des opérateurs comme n'importe quel autre. Un petit, certes, mais un des joueurs de ce marché. Et nous allons bientôt ouvrir l'interconnexion avec la Mauritanie qui permettra, sans doute comme aujourd'hui, qui nous permettra d'assister la Mauritanie à stabiliser l'alimentation du nord de la Mauritanie et qui nous permettra sans doute à nous de stabiliser la connexion du sud de notre pays, ce qui est finalement... Et donc, les interconnexions, il faut retenir ça, que ce sont des vaccins contre les coupures et que quand coupure il arrive, est-ce que ce sont plutôt des effets indésirables qui malheureusement avec les vaccins existent aussi, et puis les dégâts collatéraux, eh bien, ce sont les incidences économiques.
Des incidences économiques concernant la situation qui s'est déroulée. Et aujourd'hui, quelles leçons peut-on donc tirer pour l'avenir de la transition énergétique ?
Pour l'avenir de la transition énergétique au Maroc, moi je ne vois rien de spécial. Il va falloir continuer son petit bonhomme de chemin en essayant d'accélérer, au contraire. Bon, je vois que maintenant on commence, je suis content, on accélère au bon moment, je dirais, on est en train d'accélérer les capacités de stockage d'électricité dans ce pays, puisque l'Office national de l'électricité vient de lancer un appel d'offres dans lequel, pour moi, il y a quand même beaucoup de turbines à gaz, mais il y a aussi de stockage, il y a aussi des capacités de stockage batterie qui vont être étalées sur le pays. Et ce n'est pas peu, parce que c'est quand même 1600 MWh de stockage qui vont pouvoir fournir quelques centaines de mégawatts au moment des pointes, si vous voulez, au moment où il est difficile de fournir le réseau. Et ces stockages batteries vont permettre de nous libérer des excédents sans forcément les exporter, d'accord ? Et vont nous permettre aussi de récupérer ces excédents dans ces moyens de stockage. Et voilà en quoi il y a une relation entre ce qui se passe actuellement et la transition énergétique, c'est-à-dire le développement, on entend par là le développement d'électricité renouvelable qui va nous permettre d'acquérir plus d'indépendance énergétique, s'il est utile que je le rappelle.
Et par rapport aussi à ça, comment les politiques justement énergétiques peuvent-elles prévenir de futures crises comme ça a été le cas avec la situation donc en Espagne ?
Je pense que c'est quelque chose de très technique. Dans lesquelles les politiques feraient bien mieux de ne pas trop parler et de se fier aux compétences techniques qui existent, que ce soit au niveau de l'Office national de l'électricité et autres. Parce que ce sont des choses qui sont trop techniques pour être manipulées par la politique politicienne, et qu'on se reste dans les objectifs stratégiques fixés par Sa Majesté qui consistent à développer l'exploitation des ressources locales, notamment de l'électricité renouvelable, et aller le plus vite possible pour réaliser les objectifs prévus de 2030, quitte à les dépasser, si Dieu le veut.
Et aussi, par rapport également, vous en parliez, les perspectives énergétiques, la position marocaine par rapport à ce qui s'est passé. On a vu récemment aussi que les autorités espagnoles ont remercié et même également rendu un grand hommage à Sa Majesté également par rapport à la situation aussi, à l'accompagnement du Maroc par rapport à cette situation. Aujourd'hui, cette relation hispano-marocaine sur le plan énergétique est-elle avantageuse dans l'un des sens, ou également est-ce aujourd'hui un avantage qui pourrait servir et pour le Maroc et aussi et pour l'Espagne dans un futur prochain ?
Moi j'aime bien dire une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, si nous avons pu assister l'Espagne, si nous et la France n'étions pas là, l'Espagne aurait probablement mis entre 2 et 4 jours pour rétablir la situation dans tout le pays au lieu des 10-18 heures qui ont été nécessaires pour rétablir la totalité. Bien, moi j'aime bien dire que ceci n'est dû qu'à une chose, c'est que, je dirais, les mécanismes se font très naturellement puisque l'Office national de l'électricité et de l'eau potable est un des acteurs du marché de l'électricité européen, et que faire appel à l'Office national d'électricité a été facile pour l'Espagne. Ça n'a pas demandé un branle-bas de combat, d'autorisations administratives diverses et variées. On a un voisin au nord, on a un voisin au sud, on fait appel à eux pour remettre en route l'ensemble du système. Et il n'y a pas besoin de mettre en branle toute une hiérarchie politique. Par contre, si ceci est tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce justement à une politique éclairée d'intégration régionale qui, elle, suppose bien sûr la reconnaissance politique du fait établi qui est aujourd'hui, qui est que nous sommes avec l'Espagne des acteurs d'échange. Vous savez, tous les mois, nous prenons l'Espagne, nous, nous aide à compenser certains de nos déficits ou bien nous permet d'acheter de l'électricité moins chère plutôt que de faire tourner des turbines à gaz qui nous coûteraient plus d'un dirham rien qu'en combustible. Et tous les mois, nous aidons, nous aussi, avec une part, disons, un cinquième de nos imports environ, nous exportons vers l'Espagne de l'électricité dont l'Espagne a besoin. Donc il y a quelque chose de routinier tous les mois qui, bien sûr, à l'occasion de ce blackout espagnol, a pris une ampleur beaucoup plus importante. Mais il faut savoir que les échanges avec l'Espagne sont parfaitement routiniers, réguliers, et tous les mois, le Maroc exporte, et tous les mois, le Maroc importe, et vice-versa pour l'Espagne. Donc, voilà, si ceci est un fait, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qui l'ont permis en temps et en heure, et voilà.
Et voilà également, merci encore à vous Amine Benouna par rapport à ce tour de l'actualité concernant également l'aspect énergétique mais aussi les conséquences à tirer de cette coupure en Espagne mais également l'apport du Maroc, aussi les préventions à prendre par rapport à cette problématique énergétique qui touche non seulement l'Espagne mais également le monde de manière générale. Merci encore pour cette analyse et aussi pour cette vision également personnelle mais aussi expérimentée de cette situation dont nous avons pu également avec vous échanger.
Merci beaucoup.
Merci également à vous, chers amis de la durabilité. La question donc de cette coupure espagnole, vue de l'œil d'expert de M. Amine Benouna. On se donne rendez-vous dans la durabilité de votre confiance renouvelée pour un prochain numéro. Au plaisir.